Quelle était la grande différence entre la mentalité du Elevav et la mentalité d'Israël, à travers cette différence de Derechet, c'est la capacité d'accepter la Torah à cause de la clause de la Tshuva. Ce qui caractérise le Elevav dans ce contexte, c'est qu'il est incapable de comprendre que la Tshuva est possible. Alors il ne peut pas accepter la Torah comme nous, les Juifs, nous l'acceptons, c'est-à-dire des mitzvot à pratiquer. Et ils ont une approche païenne de la Torah. Je ne voudrais pas trop parler de ça, mais d'une façon générale, pour le dire un peu en ambiance chrétienne, pratiquer la Torah en esprit, ça c'est le paganisme. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Et c'est cela le drame du Elevav. Alors je vais vous le dire, dans le texte, si vous voulez, une fois on le réétudiera à la loupe, cette fameuse expression « Am Ksherorev », le peuple à la nuque raide, est dite la première fois pour le Elevav. Et Am Kesherorev, ça veut dire, dans le sens traditionnel du terme, le peuple à la compréhension difficile. Am Kesherorev. Orev. Est-ce que parmi vous, certains connaissent l'arabe? Nahon? C'est le même mot en arabe. Comment on dit connaître en arabe? Araf. Nahon? Mais Orev, ça a le sens de la compréhension en hébreu aussi. Je vais vous dire le verset. Yarof Kamatar Likri. Que ma leçon soit reçue comme on reçoit la pluie. Et la pluie, on la reçoit sur la nuque. Mais le sens, vous me direz si c'est suffisamment clair. Ça veut dire, lorsque Dieu s'adresse à Moïse et dit, j'ai vu ce peuple, je vais le détruire. J'ai vu ce peuple, c'est un peuple à la nuque raide, je vais le détruire. Il s'agit du Elevav dans le contexte. Et alors, on a posé la question suivante. Aucune faute ne résiste au repentir. Pourquoi cette précipitation de la sanction de détruire ce peuple? Est-ce qu'on ne peut pas lui donner l'occasion de se repentir? Alors, c'est ce que dit le verset. Je sais qu'ils sont incapables de se repentir, donc je vais les détruire. C'est ça que ça veut dire, « Iné amcherev vous ». Oui. Et vous verrez tous les mefarshim, commencer par Rashi. Rashi explique, lorsqu'on leur fait de la morale, ils tournent leur nuque vis-à-vis de celui qui leur parle, de telle sorte qu'il n'y a aucun espoir qu'il fasse Tshuva. C'est ça, Am Ksherorev, donc la nucrète. Je vais raconter une histoire qui me revient dans ma mémoire. J'ai eu un ami, un très grand rabbin, il est mort depuis Israël et Macha. Il était grand rabbin dans une ville en France. Et alors, un soir de Kippour, il avait à s'expliquer avec son président de communauté. Et alors, il a fait son serment de soir de Kippour. Et en répétant plusieurs fois, ne croyez pas que je parle à quelqu'un d'autre. C'est à vous que je parle. À la fin du discours, le président lui dit, monsieur le rabbin, quel beau discours vous avez fait. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Alors, c'est exactement ce qu'explique, Rashi. Quand on leur fait la morale, ils se tournent pour voir à qui on parle. Alors, ils donnent la nuque. Ça, mon cher. Lorsque Dieu a exaucé la prière de Moïse de suspendre la sanction de la destruction des Elevav, le Elevav est introduit en Israël. Alors il y a un verset, si vous voulez, je vous le lis. Il y a un verset qui dit, va dire à Israël, vous êtes devenu un peuple à la nuque raide, méfiez-vous. Maintenant que le Elevav est rentré chez vous, vous êtes vous, Amcheré. Vous voulez le verset, je vous le dis tout de suite. Et c'est ce qu'on dit dans les prières du jour de Kippour. On demande le pardon et on demande à Dieu de se souvenir. C'est notre manière d'être Kesher Olef, et quand on se réfère aussi dans le livre de Shmuel, c'est depuis quand? Depuis que le Elevav est rentré en Israël. Alors quelle est la grande différence? C'est ça, cet entêtement qu'il y a dans l'idée de Kesher Olef, c'est ce qu'on appelle en hébreu la Meshuva, le contraire de la Teshuva, mais c'est la même racine. Shuv, ça veut dire revenir. Teshuva, c'est revenir sur un mal qu'on a fait pour le réparer. Meshuva, c'est revenir sur un mal qu'on a fait pour le refaire. Et Meshuva, c'est l'entêtement. C'est le substantif du mot Shovav. Shovav, comment on traduisait Shovav?
Rebelle.
Non, il y a un sens en israélien, Shovav, qu'on dit d'un gosse qui est Shovav. Turbulent. Oui. Alors, mais dans l'hébreu biblique, c'est rebelle. Le verset, c'est Shuvu Banim Shovavim. Revenez, enfant rebelle. Et faites tshuva, enfant rebelle. Alors, c'est ça le problème. C'est le problème de la teshuva. Je vous fais un court-circuit dans l'histoire et on s'aperçoit que la grande différence entre le judaïsme et le christianisme, c'est que le judaïsme accepte la Torah pour la pratiquer parce qu'il sait que la tchouva est possible, alors le christianisme a une panique devant la loi. Si on accepte la loi, on est perdu. Et alors, si on interroge leur théologien, mais vous n'avez pas la clause du repentir, ils ne comprennent pas. On a la clause du repentir pour les fautes véniales, même les péchés mortels, mais le salut, rien à voir. Vous avez compris l'abîme qu'il y a entre. C'est vraiment une religion du Elohim qui se prétend Israël. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ces choses aujourd'hui, je devais le faire, je ne sais pas pourquoi, mais on va parler un peu du Mishkan.
Oui, pourquoi alors, je pense que tout à l'heure, depuis l'année dernière, je voulais poser cette question. Pourquoi Moshe, Yavkakouro, a dit
Non. Eh bien, ça, on a déjà étudié, oui, je vais vous dire la même chose que j'ai dit à madame. C'est-à-dire, n'oubliez pas ce que vous avez appris sur un autre texte. C'est que une des fonctions d'Israël, c'est d'aller sauver le Hélèbre. Et on finira par les sauver, malgré eux. Ils cherchent le salut, ils l'auront. Salut. Et si le Hélèbre est détruit, Israël doit revenir en exil. Alors, pour sauver Israël, il faut pardonner au Hélèbre. Mais ça handicape Israël. C'est pourquoi j'ai dit, peut-être, la formule n'était pas exacte comment ce qu'il fallait. J'ai dit la semaine dernière, il y a 15 jours, qu'en prenant en lui-même le Hélèbre, Israël prend sur lui les fautes du monde. Enfin, je n'aurais pas dû dire les fautes, j'aurais dû dire les défauts, pas les fautes, du monde entier. Et pas les fautes, c'est les manières d'être homme, donc les défauts du monde entier. Attends une minute, je voudrais revenir. Mais ne vous trompez pas, je profite de ta question. Le Hélèbre, ce n'est pas les convertis d'aujourd'hui. Les convertis d'aujourd'hui sont des convertis à Israël. Le Hélèbre, c'était introduit à Israël sans la préparation de Giyur Kahalacha. Le terme qui est employé par les commentateurs, c'est que Moïse les a convertis, mais sans passer par le Beit Din. C'est un libéral, Moïse. Un réformé. Et alors, il y a, selon vous avez fait allusion, une précipitation. On n'a pas eu le temps de les former, mais il fallait les prendre. Voilà, c'est bien clair ce que je dis là. C'est pourquoi le Midrash explique que la sanction de la faute du Hélèbre va être distribuée jusqu'à la fin des temps. Alors là, on aura le temps d'éponger tout ça, jusqu'à la fin des temps. Chaque fois qu'Israël, je reviens à mon verset de Isaïe, chaque fois qu'Israël paye pour une faute, il paye pour la faute et pour la faute du Hélèbre. Kiflaim, lechol hatotea, comme on a dit tout à l'heure. Alors voyez, ça s'explique. C'est que Moïse sait que le plan de Dieu, c'est qu'il faut prendre le Hélèbre, mais il faut le prendre kahalacha. Alors ça, Dieu interdit. Dieu n'est pas réformé. Et Moïse n'a pas eu le temps. Et alors, il intercède pour qu'on le prenne quand même, et il se prend lui garant que ça réussira un jour. Est-ce que c'est suffisamment clair ? Je voudrais rattacher ça à quelque chose appris d'autre part, que Moïse ne rentrera en Eretz Israël quand il aura ramené cette génération-là. Quand on aura fini de les ramener, Moïse dira, c'est moi. Il se dévoilera. Vous voyez comment c'est lié. Moïse s'est donné comme garant de réussir à les intégrer. Alors quand on aura fini de les éduquer, et d'ailleurs c'est une étymologie française, on éduque à Sion, c'est l'éducation. Voilà, qu'est-ce que vous demandez ?
Pourquoi faut-il absolument les intégrer ?
Encore une fois, je reviens, c'est la question de madame. Suivez pas seulement les questions, suivez aussi les réponses. Parce qu'il y a en dehors d'Israël une partie de l'âme d'Israël qui s'est perdue à la périphérie et à l'extérieur. Il faut les réintégrer en Israël pour qu'Israël soit Shalem. Le monde ne peut pas fonctionner avec un cœur atrophié. Donc il faut réparer le cœur. Et comment on répare le cœur ? Avec un abulplaste qui s'appelle Erevav. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, vous apprendrez, si vous étudiez ces questions, que le Hélèbre ramène un niveau de Torah qu'Israël n'aurait pas sans eux. Ça, je ne sais pas si vous savez ça en plus. Le converti amène en Israël une partie du Nefesh d'Israël, une partie de la terre d'Israël, une partie de la Torah d'Israël qu'on n'aurait pas sans eux. Je vous donne un exemple. Une halakha sur laquelle le Maharal insiste beaucoup et qui est très peu pratiquée parce qu'on ne la connaît pas. On doit s'adresser à un guerre en l'appelant Rabbi. même s'il n'est pas rabbin, surtout s'il n'est pas rabbin. Parce que, je vais vous dire la réponse que j'ai eue d'un de mes maîtres, et je crois que c'est pas une blague de pourri. Parce que deux choses d'une, un guet, ou bien il est fou de venir en Israël, ou bien c'est un sage. Alors, un pari, on dit des rabbis. D'ailleurs, c'est ce que les rabbins commencent par dire aux postulants de la conversion. Qu'est-ce qu'il vous prend de venir dans cette galère? Et une fois qu'on est convaincu, on lui fait une fête. Vous ne connaissez pas cette halakha. Un guet, il faut dire rabbi. D'ailleurs, dans les yeshivot, on a appliqué cette halakha au balai tshuva. Vous n'avez pas remarqué ça? N'importe quel balai tshuva l'appelle gaon. Vous n'avez pas remarqué? Et c'est la même chose. Vous, il est fou.
En attendant, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de l'Israël, ce qu'on appelle Erevra, ceux qui se manifestent en tant qu'Erevra, nous posent pas mal d'ennuis et risquent de nous amener à Redon.
Oui, mais alors, je vais vous dire, tu as bien fait de poser la question. Il ne faut pas identifier les filiations. Par exemple, qui c'est Amalek? Amalek aujourd'hui, ce n'est pas des descendants d'Amalek. Amalek aujourd'hui, ce sont des sociétés qui ont la fonction de Amalek. Alors, il y a des juifs qui sont authentiquement juifs. Vous savez que c'est un juif. C'est un juif, c'est quelqu'un qui est né de mère juive ou converti au judaïsme. Ça, c'est un juif, c'est pas réservable, ça. Et est-ce que c'est clair, Ken? De la même manière, qu'est-ce que c'est un sioniste? C'est quelqu'un qui est né sioniste, qui est fils de mère sioniste. Par exemple, le fils de Golda Meir. Je ne sais même pas s'il est resté juif. Alors, quoi qu'il en soit, il y a effectivement, à l'intérieur de l'identité d'Israël, la tendance élevable. Mais on aurait des surprises si on se renseigne sur les sources. Qui sont ces tendances élevables? Ce n'est pas toujours ce qu'on croit, c'est des fois l'inverse. Faites bien attention à ça. Non, c'est pas le sujet. Et si on parlait un peu du Mishkan? Que vous en pensez? Alors, prenez le texte. Est-ce qu'on a encore, Sira? On a encore du temps? Oui, il est déjà. Mais bien sûr, c'est ce que j'ai voulu expliquer. Il y a même parfois très juifs, c'est des juifs plus. Oui, vous en priez.
Est-ce que Dieu n'a pas voulu compenser la servitude des Hébreux en demandant aux femmes égyptiennes d'être très larges pour apporter, pour donner leurs bijoux et leurs...
Ça, si vous voulez, c'est l'événement. Maintenant, quelle est la signification de l'événement? Là, il faut se référer à la source qui parle d'Abraham. Et d'ailleurs, quand... à ce moment-là, Dieu dit à Moïse, demande aux Hébreux qu'il s'adresse aux Égyptiens pour avoir tous ces cadeaux dont j'ai parlé. Et toi, Moïse, ne s'est pas occupé de ça. Il s'est occupé d'aller chercher où étaient les ossements de Joseph. Vous voyez la différence, Ken? Parce que Moïse ne pouvait quitter l'Égypte que s'il ramenait avec lui les ossements de Joseph. Sinon, ça disqualifiait l'initiative de Joseph qui avait fondé l'histoire de cette diaspora d'Égypte. Et alors, il y a un relais qui est pris. Et Moïse a réussi à savoir où était le sarcophage de Joseph et à l'emporter avec lui. Je me rappelle une blague de Pourim, je voulais dire quand même, puisqu'on est encore un peu sur la chemin de Pourim. Le Midrash dit qu'il se baladait devant le Nil et il disait « Allez, Chor, monte, Chor ». Chor, c'est le totem de Moïse, de Joseph. « Bechor, Choro, Hadarlo », c'est Joseph. Alors en français, on disait « Allez, sors !» Il vient jeter un Chor. Eh bien, vous voyez, alors là, le Midrash dit que Dieu dit à Moïse qu'on ne dise pas que je n'ai pas accompli la promesse que j'ai faite à Abraham quand je lui ai dit « Vahalechen et Tzehu Bechouj Gadol ». Donc, l'événement dans l'aspect superficiel, disons, formel, ce serait une sorte de dédommagement, dommage et intérêt. Je parlais que les Égyptiens allaient faire des calculs de dommage et intérêt dans une histoire pareille. C'est beaucoup plus important que ça. Ça veut dire, il faut que pour que Israël ait le feu vert de quitter l'Égypte, que ça se réalise là, ce pourquoi il est en Égypte, de ramener ces valeurs-là. Et j'espère que vous avez compris toute cette analyse, au-delà du niveau purement matériel, où l'or c'est de l'or, et où la viande c'est de la viande, et du lait c'est du lait. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Bien, alors écoutez, je vois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour l'étude, il nous reste juste un quart d'heure. On va quand même lire un Rashi sur le Mishkan dans Pekoudé. Je vous rappelle, que je n'oublie pas, que donc, la semaine prochaine, il y aura cours. Je pense que Esther vous l'a dit. Donc, je rappelle, lundi soir, il y a le cours en hébreu, pour ceux qui ont l'habitude de couture. C'est dimanche, oui, d'accord. Dimanche soir, le cours en hébreu. Mardi, à 6h30, on étudiera encore de la Haggadah. Et mercredi, on étudiera la paracha de la semaine. Et ce sera le dernier cours du semestre, je ne sais pas comment vous appelez ça, le trimestre, le quadrimestre. Et puis, on ira en vacances pour Pessah. Alors, prenez le début de Pekoudé. On va lire les premiers versets. Est-ce que Rachel est déjà partie?
Rachel, oui.
Hein?
Et
Esther est là. Bon, d'accord. Bon, d'accord, non, ça va. Oui. Alors, prenez au chapitre 38, le verset 21, le début des contes de la construction du Mishkan. Elle est, voici, Pekoudé à Mishkan. Alors, cette notion de Pekoudim, c'est encore un des termes hébreux qui est très difficile de trouver l'équivalent précis en français. La racine pakod a énormément de sens. Mais par rapport au contexte, ça veut dire le bilan des matériaux, encore une fois, qui ont été utilisés pour la construction du Mishkan et à travers lesquels nous est racontée la mise sur pied de ce Mishkan. Il y a une indication dans toutes ces parachutes concernant le Mishkan qui est très importante. C'est la notion de miksha, mem kuf shin hei miksha. Il fallait qu'il y ait une unité, que toutes les pièces soient solidaires, une unité totale de l'ensemble, dans chacun des kelim et dans le mishkan en lui-même. C'est une notion extrêmement importante de tout l'enseignement de la Torah. Chaque partie n'a sa valeur que si elle fait partie d'un tout un. Chaque partie, disons, est unique, mais elle fait partie d'un ensemble un. Alors, elle est pekoudé à mishkan. Voici les contes du tabernacle, Mishkan Ha'edut, le tabernacle du témoignage, Asher Poukad Alpi Moshe, qui a été, si j'ose dire, mis en compte par Moïse, Avodat Leviim, c'est l'œuvre des Lévites, Beyad Itamar, par l'entremise de Itamar, fils de Aaron, le prêtre. Alors on va étudier l'expression Hamishkan Mishkan, c'est-à-dire on s'est demandé pourquoi dans les sources. Pourquoi dans ce verset, le mot de Mishkan est répété deux fois? Il aurait suffi de dire « Ele pegoudé, Mishkana edut asher pukad ». Et corollairement, on se demandera quelle nuance de sens, plus qu'une nuance, apporte ce qualificatif, c'est Mishkan a edut. Alors on lit Rashi. On va lire Rashi depuis le début. Quoi qu'on ne va pas étudier le premier Rashi, c'est le deuxième qu'on va étudier. Les parachazou, dit Rashi, dans cette paracha, nimnu, ont été comptés, kol mishkale, tous les mishkal. Les
poids.
Non, ce n'est pas les mesures, les poids dans le sens de quantité. Nidbat à mishkan, de l'offrande, je paraphrase, l'offrande qui a permis la construction du mishkan. Les kese vous avez nechoché, vous rappelez que j'y ai fait allusion tout à l'heure. En argent, en or et en cuivre, des nimnu kolkelav ont été décomptés tous ces ustensiles, les cholavodato, pour toutes les fonctions de chacun de ces ustensiles pour le mishkan. Un mishkan, mishkan. Shne pe'amim ramaz la mikdash. Il y a par deux fois une allusion au sanctuaire. Vous vous rappelez la différence entre mikdash et mishkan? Je vous rappelle le verset au début de la parasha de Trouma. Verasuli Mikdash, ils me feront un sanctuaire, Veshachanti Betocham, et je résiderai parmi eux. Alors le mot de Mishkan est construit sur la racine de Veshachanti, c'est-à-dire Mishkan, c'est le lieu de la résidence, de la présence dévoilée de Dieu dans son monde, qu'on appelle la Shechina. Le Mikdash, c'est le sanctuaire lui-même. Or, le Mikdash ne sera vraiment après Mikdash, plus exactement Beta Mikdash, que à Jérusalem. Et le Mishkan est une sorte de préfiguration dans les 40 ans du désert de ce que sera le Mikdash à Jérusalem. Et il y a beaucoup de sources dans le Midrash, en particulier, qui disent que c'est un problème de savoir qu'il y a eu, si vous voulez, un exercice à l'avance de la construction du Temple en dehors d'Eretz Israël pour se préparer à la construction du Temple en Eretz Israël. Ça aussi, c'est une des fonctions de l'exil. J'ouvre ici un thème important. Israël est la seule société qui reçoit sa constitution avant que son histoire commence. Dans toutes les autres sociétés, il y a d'abord une histoire qui induit, en fin de compte, une constitution et les instruments de cette constitution. On dit qu'Israël a, d'une certaine manière, une préhistoire où se prépare son histoire. Malheureusement, le temps de ces préhistoires ont été beaucoup plus longs que le temps de l'histoire elle-même, ce qui fait que beaucoup de Juifs, pour parler de cette période de l'exil-là, des Hébreux de l'exil, beaucoup de Juifs ont fini par être persuadés que leur identité naturelle, c'était l'identité de préparation et pas l'identité de réalisation. Qu'au contraire, l'identité de réalisation est une sorte de traîtrise à la fidélité, à la préparation. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. D'ailleurs, c'est un grand débat dans le monde religieux juif, ceux qui s'en tiennent au temps de l'espérance et ceux qui sont déjà au-delà de l'espérance, c'est-à-dire à la réalisation. En fait, c'est les pères et les fils. Puisque les pères et les fils, c'est le thème de Pessah, je vous une petite parenthèse. Il y a le temps des pères et le temps des fils. Le temps des pères, c'est le temps de la promesse. Le temps des fils, c'est le temps de la réalisation. Et je crois que le grand débat entre Israël et la diaspora, c'est que la diaspora est à l'indice du temps des pères et qu'Israël est à l'indice du temps des fils. Or, la Torah a été donnée pas aux pères d'Israël, mais aux fils d'Israël. D'abord, il béné Israël. La révélation a traversé les pères comme une promesse et concerne les fils. D'ailleurs, j'ai l'habitude de citer ici un verset de Jérémie très important. « Véchavou banim l'irmoulam » et les pères. Vous avez compris le problème. Et alors, il y a un judaïsme de la fidélité à la promesse, c'est le judaïsme de diaspora, et un judaïsme de la réalisation de la promesse, c'est le judaïsme israélien. Et c'est le grand conflit de la génération contemporaine. Or, il y a des Israéliens en diaspora, ce sont les Juifs qui se préparent à réaliser vraiment, les Juifs qui se préparent. Il y a les Juifs de la préparation, ils se préparent à Sion. Et puis, il y a en Israël beaucoup de Juifs qui vivent encore dans la dimension du judaïsme de la promesse. Vous les trouvez, surtout à Bnei Brak, et le soir du Seder, on en parle d'ailleurs. Je vous donne une petite anecdote du Seder à Bnei Brak. On s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est que ces élèves qui disent à leur maître, ils écoutent pas, Egyarzman, Krajman, Shecharit. De quoi je me mêle? Les maîtres, les plus grands maîtres d'Israël étaient en train de discuter de leur propre sortie d'Égypte. C'était l'état-major de la résistance contre les Romains, je ne sais pas si vous savez ça. Ils étaient donc cachés dans une caverne et leurs élèves faisaient le guet. Et puis les élèves ont vu à l'horizon pointer Kriat Shema Shel Shacharit. Alors ils viennent dire à leur maître, eh mais vous savez, mes maîtres, c'est déjà le temps du vite, vite, Mitra. C'est déjà le temps du Kriat Shema. Ils n'écoutent pas. La réponse est très simple. Il ne faut pas s'étonner, c'est des élèves de Bnei Brak. Bon, il n'y a pas de Bnei Brak, il y a aussi des Bnei Brak bourgeois, il y en a beaucoup à Jérusalem, et ça c'est des Juifs dans l'État d'Israël. Mais encore une fois, et j'en connais énormément, il y a beaucoup d'Israéliens en puissance chez les Juifs de diaspora. Je ne sais pas si vous comprenez la différence d'identité. Je répète pour que ça soit clair, il y a ceux qui se préparent en vue de faire, et ceux qui se préparent. Alors j'en prépare. Et ceux-là, c'est les pères. Okay. Il y a aussi des supers. Il y a des hypers. Et puis il y a les fils. Les fils, c'est Réchaou, Bani, Rimoulam. C'est clair, je crois. Et d'ailleurs, c'est tellement important comme problème que c'est le problème d'Eliyahu Hanavi. Qu'est-ce que doit faire Eliyahu Hanavi? Réconcilier les pères et les fils. Mais regardez bien l'ordre. Véchiv les vavot al banim, et alors les banim al avotam. Il faut que les pères se réconcilient avec les fils, alors les fils se réconcilieront avec les pères. Mais actuellement, il y a rupture. Je ne sais pas si vous voyez les implications sociopolitiques de tout cela dans les problèmes contemporains. Bien. Alors, on continue quand même. Hamishkan, Mishkan. Shnepe Amin Ramaz Lamikdash, Shenit Mashken Bishne Chubanin. Il y a deux allusions au Mikdash, au sanctuaire lui-même, c'est-à-dire le temple de Jérusalem, qui sera reconstitué deux fois, après deux destructions. Bishne Hurbanin, Hurban, en hébreu, ça veut dire une destruction qu'on peut reconstruire. Alors que Shoah, ça veut dire une destruction qu'on ne peut pas reconstruire. Là, je vais préciser cela. Immédiatement après la guerre, j'ai vécu cette époque, on a hésité de savoir comment désigner la catastrophe qu'on découvrait. Certains ont commencé par la plupart, comme Horoban, mais très rapidement, les rabbins nous ont dit non, il faut appeler ça Shoah. C'est une différence, pas sémantique, c'est une différence de fond. Parce qu'encore une fois, Horoban, c'est une ruine qu'on peut reconstruire. Il y a Horoban Bet Amigdash. Le premier temple a été détruit, il a été reconstruit. Le deuxième temple a été détruit, il sera reconstruit. Horoban, on peut reconstruire. Shoah, on ne peut pas reconstruire. Et ça, je le dis souvent dans les ghettos de diaspora, qui jouent à faire semblant de refaire ce qui a été détruit à la Shoah. Mais c'est un jeu, on joue à... Tout se passe comme si, mais c'est du comme si. Je ne sais pas si c'est clair ce jeu-là. Si vous allez dans un de ces ghettos, que ce soit en Amérique, en Angleterre ou en France, on joue à refaire la Pologne, la Roumanie, la Hongrie d'avant la Shoah. On se moque de qui? Je ne sais pas si vous voyez l'artificiel que ça représente. Et alors, c'est une différence de nature. Donc, ici, le fait qu'il y ait Mishkan, Pekodia Mishkan, Mishkan Haedut, le fait qu'il y ait répétition, ça fait allusion aux deux temples de Mikdashim qui ont été détruits, Rorbanim, à la Vonotéem, à cause de leur faute, chez l'Israël d'Israël. Mais on va surtout approfondir, pour quelques phrases, le Rashi suivant. Mishkan Haedut. Et pourquoi on appelle le Mishkan? C'est-à-dire le fait qu'avant qu'il y ait un Mikdash à Jérusalem, il y a quand même eu un Mishkan dans le désert. Pour cette génération qui finalement ne devait pas rentrer en Israël, ne devait pas connaître le Mikdash. Malgré tout, on lui a donné un Mishkan. Alors pourquoi ce Mishkan-là s'appelle Haedut, Mishkan du témoignage? Témoignage de quoi? Voilà ce que dit Rashi. Haedut le Israël, c'est un témoignage pour Israël, chez Viter Lahem Akadosh Baruch Hu, que Dieu leur a pardonné, Al Maase Aegel, la faute du Vaudor, chez Haré Ishra Shrinato Benehem, puisqu'il a fait résider sa présence parmi eux, bien qu'ils étaient disqualifiés par rapport au Mikdash, ils ont eu quand même un Mishkan pour qu'il y ait témoignage qu'ils ne sont pas abandonnés, qu'ils ne sont pas disqualifiés, qu'ils sont dignes de la présence de Dieu quand même, mais dans ce provisoire du désert. Est-ce que c'est clair? Voilà, ben je crois que c'est sur ces paroles de consolation que... Oui. Ah, c'est dans Ézéchiel, dans les prophètes. Parce que, à propos du risque de destruction, dans la mesure où Israël n'est plus fidèle à son identité. Et c'est, bon, là, c'est pas une question très très vaste, mais c'est un terme biblique. Un terme biblique, c'est surtout Ézéchiel qui l'emploie. Parce que, si vous voulez vraiment écouter les imprécations des prophètes, sur la responsabilité d'Israël sur les malheurs qui lui arrivent à Israël, il faut lire Ézéchiel. Et là, Dieu parle en clair. Je vais vous dire une dernière phrase, parce que nous sommes encore les derniers rescapés de cette génération. Après nous, on en parlera comme une préhistoire. Il y a un grand malaise dans le judaïsme, de diaspora surtout. Et en tout cas dans le judaïsme israélien aussi, qui est imprégné de la mentalité de la culture contemporaine, surtout européenne, par rapport à la Shoah. C'est-à-dire, une fois, il y a quelques années, on a étudié ça un peu au fond, et puis ensuite, j'y ai renoncé parce que on est quand même trop contemporain. Et c'est un peu indécent pour des contemporains de parler de ces choses-là. Mais le fait est qu'on ne va plus avoir de contemporains. Il faudrait quand même en parler avant qu'on se dise à bientôt. Eh bien, il y a une image qui me frappe souvent. Finalement, c'est un problème triangulaire qui met en jeu les Allemands, les Juifs et Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je schématise beaucoup. Il se passe qu'on n'ose pas prendre au sérieux la culpabilité des Allemands qu'on dénonce et qu'on hurle. Okay? Pourquoi? Parce que la prendre au sérieux, c'est mettre en question la civilisation européenne. Et on n'ose pas mettre en question la civilisation européenne, disons même occidentale. Parce que ce qui s'est passé à la Shoah, c'est à l'évidence l'échec de la civilisation occidentale, mais profond. Alors qu'on n'ose pas mettre ça en question, alors on pardonne à l'Allemagne, on se réconcilie avec l'Allemagne, et on négocie des réparations, et voyez, la morgue des Allemands, ça dépasse même celle des Arabes de Oumelfahem.
Okay. C'est pas particulièrement Martin Luther qui est en jeu.
Ah, Martin Luther, c'était avant la Shoah. Bah, je parle des Allemands.
Justement.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, les protestants sont plus responsabilisés que les catholiques, c'est exact, pour l'Allemagne. Mais je veux dire, je parle des Allemands contemporains. Les Allemands contemporains profitent du fait que les Juifs n'osent pas prendre au sérieux leur responsabilité, parce que ça risquerait de mettre en évidence la responsabilité, de mettre en question la civilisation européenne gréco-romaine. Et comme on a peur de toucher à ça, alors les Allemands ressuscitent. Ça, c'est une chose. Alors qu'est-ce qui reste ? Dieu et les Juifs. Et comme on n'ose pas parler de la responsabilité des Juifs, alors on culpabilise Dieu lui-même. Vous voyez quel est le problème ? Donc c'est extrêmement délicat comme problème. Je vais vous dire quelle est la halakha à ce sujet. Il est bien évident que tous ceux qui sont morts de la Shoah, de près ou de loin, et même des conséquences, il y en a encore aujourd'hui des gens qui sont des victimes de la Shoah. Je ne sais pas si vous savez ça. Bon. On les définit comme des Kedoshim. Ils sont morts pour le Kiddush Hashem. Ce n'est pas les Juifs qui sont responsables. Ce sont ceux qui ont trompé les Juifs et les ont fait prendre dans un piège. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Okay. Alors, en tout cas, c'est à ce niveau-là qu'il faut penser les choses. Or, déjà au temps des Hébreux, les prophètes craignaient ce genre de piège qui serait fait. À part Nishba, Vanachon, Nimlatnu, 6 millions ne se sont pas sauvés de ce piège. Le piège s'est refermé, il s'est refermé. Et alors, c'est à ce propos que le terme de Shoah est employé par Ézéchiel. Et pourquoi c'est grave comme problème ? C'est que ça continue. Les mêmes responsabilités qui consistent à enfermer dans les pièges les mêmes juifs irresponsables. Je ne sais pas comment dire ça, mais vous comprenez. Ça continue. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire du 50e anniversaire de la fondation du CRIF. Je ne sais pas si vous savez ça. Bon, c'est aujourd'hui. Vous savez que c'est le CRIF. Bon. Le CRIF, c'est l'organisme central du judaïsme français qui s'est fondé pendant la résistance, d'ailleurs. Eh bien, j'ai entendu le bilan que le président du CRIF a fait à la radio israélienne ce matin. Et un des fleurons de son bilan, c'est de s'occuper des déshérités européens. Et bien sûr, nous sommes solidaires d'Israël. Et alors, une espèce d'irresponsabilité. Et Dieu sait que le président du CRIF actuel est un grand juif, pour qui j'ai personnellement énormément de considération. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de sa fonction et de ce qu'induit sa fonction. Et alors, donc, ça continue, ça recommence. Et pendant ce temps, on a des problèmes israéliens. Alors, ceci dit, on se retrouve la semaine prochaine. Ça va, ça va.